Chapitre 37. Nous marchons toute la journée, Hunt et moi. Vers la fin du jour, nous découvrons une auberge où un repas a été préparé, visiblement à notre intention. Volaille, macaroni, chou-fleur, pudding au riz, etc. Il n'y a toujours personne. Aucun signe de présence malgré la cuisinière encore chaude et le feu dans la cheminée, où les bûches sont presque intactes. Tout cela ne fait qu'accroître la nervosité de Hunt. Cela est, sans doute, l'état de manque où il se trouve du fait qu'il n'est plus en contact avec l'infosphère. J'imagine ce qu'il ressent. Pour quelqu'un comme lui, qui a toujours vécu dans un monde où l'information est à portée de la main, où la communication avec n'importe qui, n'importe où, est considérée comme un fait acquis, et où les distances à parcourir n'excèdent jamais la plus proche station distance, cette soudaine régression vers une existence semblable à celle que nos ancêtres ont connue équivaut sans doute à se réveiller soudain paralysé et aveugle. Mais après avoir tempêté et ragé durant nos quelques heures de marche, il avait fini par se retrancher derrière une moue sombre et taciturne. « La présidente a besoin de moi !» ne cessait-il de répéter durant la première heure. Elle a également besoin des informations que je lui apportais, mais c'est ainsi, nous ne pouvons rien y faire.
Où sommes-nous donc ?
C'était au moins la dixième fois qu'il demandait cela. Je lui avais déjà parlé de la réplique de l'ancienne Terre, mais je savais que ce n'était pas cela qui l'intéressait maintenant. Nous sommes en quarantaine, je pense.
Et c'est le centre qui nous a transportés ici ?
On peut le supposer.
Comment fait-on pour quitter ce monde ?
Je l'ignore. Il est probable qu'une porte d'Istrance apparaîtra quand ils jugeront que la quarantaine ne sert plus à rien. Hunt jura entre ses dents.
Pourquoi moi, Severne ? Pourquoi veulent-ils me maintenir en quarantaine ?
Je haussai les épaules. Je supposais que c'était parce qu'il avait entendu ce que j'avais dit à propos de Passem, mais je n'en étais pas sûr. Je ne pouvais être sûr de rien. La route traversait des prés et des vignobles. Elle sinuait à travers des collines basses et des vallées d'où l'on apercevait quelquefois la mer.
« Où mène ce chemin, d'après vous ?»
me demanda Hunt peu avant notre découverte de l'auberge.
« Tous les chemins mènent à Rome. »
« Je ne plaisante pas, H. Severne. »«
Moi non plus, H. Hunt. » Il ramassa un caillou au bord de la route et le lança au loin dans les buissons. Quelque part, une grive fit entendre son chant.
« Vous êtes déjà venu ici ?»
Il y avait une accusation dans sa voix, comme si je l'avais kidnappé. Ce qui n'était pas impossible, après tout.
« Non, » répondis-je.
Mais Keats, oui, avais-je failli ajouter. Mes souvenirs transplantés affluaient à la surface, ils m'envahissaient presque de leur sentiment de perte et de mortalité omniprésente. Si loin de ses amis, si loin de Fanny, son unique et éternel amour.
Vous êtes sûr que vous n'avez pas accès à l'infosphère ?
Sûr et certain. Il n'avait pas parlé de la mégasphère, et je ne me sentais pas obligé de lui donner le renseignement. L'idée de pénétrer dans la mégasphère et de m'y perdre me terrifie trop. Nous découvrîmes l'auberge au moment où le soleil se couchait. Elle était nichée au creux d'un vallon, et on voyait de la fumée qui montait de la cheminée de pierre. Nous mangeâmes dans la pénombre. L'obscurité se pressait contre les carreaux. La seule lumière dont nous disposions, à part le feu qui brûlait dans l'âtre, était celle de deux chandelles posées sur un rebord de pierre.
« Cet endroit me ferait presque croire aux fantômes, » me dit-il.
« J'y crois déjà, moi, » répliquai-je. C'est la nuit. Je me réveille secoué par une quinte de toux. Je sens quelque chose d'humide sur mon torse nu. J'entends Hunt qui tâtonne pour trouver la chandelle. Lorsqu'il l'allume, je vois du sang sur moi et sur les draps.
« Mon Dieu !»
murmure Hunt, horrifié.
« Qu'est-ce que c'est ? Que se passe-t-il ?
Une hémorragie.
Une nouvelle quinte m'empêche de continuer. Elle me laisse épuisé et un peu plus couvert de sang. Je tente de me lever, mais ma tête retombe sur l'oreiller. Je tends la main en direction de la cuvette d'eau et de la serviette posée sur la table de nuit.
« Merde !»
fait Hunt. Il cherche mon père Soc pour avoir un diagnostic, mais je n'en ai plus. Je me suis débarrassé sur la route, avant d'arriver à l'auberge, de l'instrument encombrant que m'avait donné Hoyt. Hunt retire son propre père Soc, en règle l'affichage et me le passe au poignet. Mais il est incapable d'interpréter les paramètres. Tout ce qu'il peut apprendre de l'instrument, c'est que j'ai besoin de soins immédiats. Comme tous les gens de sa génération, Hunt n'a jamais été confronté au spectacle de la maladie ou de la mort. Ce sont des questions professionnelles qui sont réglées à l'écart des masses.
« Ce n'est rien »,
lui dis-je dans un souffle rauque. L'atout est passé, mais la fatigue pèse sur moi comme un manteau de pierre. Je tends de nouveau la main vers la serviette. Hunt la mouille et essuie le sang sur mon torse et mes bras. Il m'aide à me lever et à m'asseoir sur l'unique siège de la chambre pendant qu'il retire les draps et les couvertures souillées.
« Vous comprenez ce qui se passe ?»
me demande-t-il d'un ton sincèrement préoccupé.
« Oui, » lui dis-je en essayant de sourire. « Précision des détails. Vraisemblance. L'ontogénie résume la phylogénie.
« Parlez clairement !»
fait-il sèchement en m'aidant à me recoucher.
« Quelle est la cause de cette hémorragie? Que puis-je faire pour vous aider ?»«
Me donnez un verre d'eau, s'il vous plaît. »
Je bois lentement. Je sens l'atout monter lentement dans ma poitrine et dans ma gorge, mais je lutte pour ne pas céder à une nouvelle quinte. J'ai l'impression d'avoir le ventre en feu.
« Qu'est-ce qui vous arrive ?»
insiste Hunt. Je réponds lentement, en choisissant soigneusement mes mots, comme si j'avançais les pieds sur un terrain miné. L'atout ne monte pas davantage.
C'est une maladie appelée phtisie, tuberculose, au stade final d'après l'hémorragie.
Le visage de Basset, du conseiller de Gladstone, est devenu blême.
Bon Dieu, je n'ai jamais entendu parler de ça.
Il tend le poignet comme pour consulter son père Soc, mais s'aperçoit qu'il ne l'a plus sur lui. Je lui rends l'instrument en ajoutant
« C'est une maladie qui n'existe plus depuis des siècles. John Keats en souffrait. Il en est mort. Et ce cybride est celui de Keats. »
Hunt se tourne vers la porte comme s'il voulait courir chercher de l'aide.
« Le centre va certainement nous laisser repartir maintenant. Ils ne peuvent pas vous obliger à rester sur ce monde sans aucun secours médical. »
Je laisse aller ma tête en arrière contre le moelleux oreiller. Sous la toile, je sens le duvet.
« C'est sans doute précisément pour cela qu'il me garde ici. Nous verrons bien demain quand nous arriverons à Rome. »
« Mais vous n'êtes pas en état de voyager. Il n'est pas question de quitter cette auberge demain. »
« On verra. »
Je ferme les yeux. Au matin, une vettura nous attend dans la rue. Une grosse jument grise y est attelée. Elle roule les yeux à notre approche. Son haleine est visible dans l'air glacé du matin.
« Et ça, qu'est-ce que c'est encore ?»
me demande Hunt. Un cheval. Il tend la main vers l'animal comme s'il s'attendait, en lui touchant le flanc, à le voir disparaître comme une bulle de savon qu'on crève. Mais l'animal est bien réel. Hunt retire précipitamment sa main lorsque la jument renacle en agitant la queue.
« Les chevaux sont une race disparue, »
me dit Hunt.
« Leur ARN n'a jamais été reconstitué. »
Celui-ci a pourtant l'air parfaitement réel. Lui dis-je en grimpant dans la calèche pour m'asseoir sur la banquette étroite. Hunt prend place à côté de moi. Ses longs doigts s'agitent nerveusement.
« Qui va conduire? Où sont les commandes ?»
Il n'y a pas de reine. La place du cocher est vide. Voyons si le cheval connaît le chemin. Au moment même où je prononce ces mots, la voiture se met lentement en route. Les roues sautent sur chaque pavé de la chaussée rudimentaire.
C'est une plaisanterie qu'on nous fait, n'est-ce pas ?
Me demande Hunt. Il lève la tête vers le ciel bleu sans nuages au-dessus des champs cultivés. Je tousse aussi discrètement que possible dans un mouchoir que j'ai taillé dans l'une des serviettes de l'auberge.
C'est possible, mais qu'est-ce qui ne l'est pas ?
Il ignore mon sophisme, et nous continuons de tressauter sur les cailloux de la route vers ce que le destin nous réserve.
« Où sont Hunt et Severn ?»
demande Mayna Gladstone. C'est Deptra Akasi, la jeune femme noire qui était la plus proche collaboratrice de Gladstone après Hunt, se pencha pour ne pas perturber la réunion avec les militaires.
« Toujours pas de nouvelles, H-Président. C'est impossible. »
Severn est muni d'un traceur et Hunt s'est distransporté sur Passem il y a moins d'une heure. Où diable sont-ils passés ?
Akasi jeta un coup d'œil au mémofax qu'elle avait déployé sur la table.
La sécurité les a perdus. La police des transits n'a pas pu retrouver leurs traces. Tout ce que le terminal d'Istrans a retenu, c'est qu'ils avaient correctement entré le code de TC carré. Ils ont franchi la porte, mais ils ne sont jamais arrivés ici.
Impossible !
Je sais, H-Présidente.
Je veux parler à Albedo ou à n'importe quel autre conseiller IA dès que cette réunion sera terminée.
Entendu.
Les deux femmes reportèrent leur attention sur la conférence. Le centre de commandement tactique de la maison du gouvernement avait été relié à la salle du conseil de guerre du commandement d'Olympus, ainsi qu'à la plus grande salle de conférence du Sénat par des portails d'Istrance de 15 mètres carrés de superficie, visuellement ouverts, de sorte que le triple espace ainsi créé ressemblait à une énorme caverne asymétrique. Les holos projetés dans cette salle d'état-major semblaient se prolonger à l'infini. Les colonnes de données flottaient partout le long des murs.
« 4 minutes avant l'incursion cislunaire !»
déclara l'amiral Singh.
« Les armes à long rayon d'action auraient pu être utilisées depuis longtemps sur Heaven's Gate !»
fit remarquer le général Morpurgo.
« On dirait qu'ils font preuve d'une certaine retenue !»
« Ils n'ont pas fait preuve de retenue envers nos vaisseaux-torches !»
ironisa Garion Persoff des services diplomatiques. L'assemblée avait été convoquée une heure plus tôt, lorsqu'une sortie tentée par une flotte constituée à la hâte autour d'une douzaine de vaisseaux torches de l'hégémonie avait fini par une destruction totale. Les détecteurs à longue portée avaient pu retransmettre quelques brèves images de l'essaim extra qui ressemblait à un bouquet d'étincelles suivi d'une traîne de comètes avant que les vaisseaux torches et leurs engins téléguidés ne cessent abruptement d'émettre. Et les étincelles étaient très, très nombreuses.
« Ce n'est pas la même chose, » répliqua Morpurgo. « Il s'agissait de bâtiments de guerre. Mais il y a des heures que nous diffusons un message indiquant qu'Heaven's Gate est une planète ouverte. Nous pouvons espérer qu'ils se montreront raisonnables. »
Les images holographiques d'Heaven's Gate les entouraient. On pouvait voir les rues tranquilles de Plaine des Boues, quelques vues aériennes du littoral, des photos prises en orbite de la planète brunâtre, avec sa couverture perpétuelle de nuages, des clichés cislunaires du dodécaèdre baroque de la sphère de singularité qui assurait la cohésion du réseau d'Istrance, ainsi que des images UV et au rayon X, prises au télescope spatial, de l'essaim qui se rapprochait. Il ne s'agissait plus seulement d'étincelles à présent, à moins du nuage. Gladstone pouvait voir les traînées de fusion des vaisseaux et le miroitement des champs de confinement massifs qui abritaient les fermes astéroïdes, les bulles mondes et les complexes résidentiels à gravité zéro, tellement inhumains.
« Et si je m'étais trompée ?» se disait-elle. Des milliards de vies dépendaient du pari qu'elle faisait sur les extros en refusant d'imaginer qu'ils puissent détruire par caprice des planètes entières de l'hégémonie.
« Incursion dans 2 minutes !»
annonça Singh de sa voix monotone de guerrier professionnel.
« Amiral !» lui dit Gladstone. « Est-il absolument nécessaire de détruire la sphère de singularité dès que les extros auront pénétré dans notre périmètre de défense ? Ne pourrions-nous pas attendre quelques minutes de plus afin de juger de leurs intentions ?»«
Impossible, H-Présidente !»
répondit vivement l'amiral.
La liaison d'Istrans doit être anéantie avant qu'il ne soit en mesure de nous attaquer sans préavis.
Mais si les derniers vaisseaux torches ne se chargent pas de cette destruction, amiral, nous aurons toujours notre réseau de liaison, les relais Mégatrans et les engins à retardement.
C'est exact, H-présidente. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de laisser le réseau d'Istrans intact lorsque les extros occuperont le système. La marge de sécurité est beaucoup trop mince pour que nous puissions faire des concessions sur ce point.
Gladstone hocha la tête. Elle comprenait la nécessité d'une prudence absolue.
Si seulement nous avions un peu plus de temps.
Incursion et destruction de la sphère dans 15 secondes, annonça Singh. 10. 7.
Soudain, tous les vaisseaux torches et toutes les transmissions holo cislunaires s'embrasèrent d'une lumière violette, puis rouge, puis blanche. Gladstone se pencha en avant.
C'est la sphère de singularité qui vient d'exploser ?
Les militaires s'activaient, demandant des informations, faisant défiler des images sur leurs écrans et dans les foyers holo.
Non, répondit Morpurgo. Ce sont nos vaisseaux torches qui subissent une attaque. Vous venez de voir leurs écrans de défense saturés. Là, regardez.
Il désigna un écran où une image reconstituée, probablement relayée par un vaisseau en orbite basse, montrait le dodécaèdre de la singularité, avec ses 30 000 m² de surface encore intacte, luisant sous la lumière crue du soleil d'Evansgate. Soudain, la luminosité s'accrut. La facette la plus proche sembla devenir incandescente, puis s'effondrer sur elle-même. Moins de 3 secondes plus tard, la sphère éclata et la singularité qu'elle retenait prisonnière fut libérée et se dévora elle-même, ainsi que tout ce qui se trouvait autour d'elle dans un rayon de 600 kilomètres. Au même instant, la plupart des images relayées et un grand nombre de colonnes de données disparurent.
« Toutes les liaisons d'Istrans sont coupées, » annonça Singh. Les données ne nous sont plus transmises à l'intérieur du système que par Mégatrans.
Un murmure de soulagement et d'approbation courut parmi les militaires. Chez les sénateurs et les conseillers politiques présents, cela ressembla plus à un soupir et à un gémissement de douleur. Le Retz venait d'être amputé du monde d'Evansgate. C'était la première fois depuis plus de 4 siècles que l'hégémonie perdait une planète. Gladstone se tourna vers Sedeptra Akasi.
Combien de temps faut-il maintenant pour aller du Retz à Evansgate?
Sous propulsion Hawking, 7 mois de voyage,
lui dit sa collaboratrice sans avoir besoin de consulter son persoc.
Avec un déficit de temps d'un peu plus de 9 ans,
ajouta-t-elle. Gladstone hocha la tête. 9 années séparaient maintenant Evansgate de la plus proche planète du Retz.
C'est la fin pour nos vaisseaux torches,
murmura Singh. Les images transmises par l'un des patrouilleurs en orbite avaient le caractère sautillant et les fausses couleurs des salves Mégatrans ultra-rapides électroniquement traitées. Elles formaient des mosaïques qui, curieusement, rappelaient à Gladstone les tout débuts de l'ère des médias. Mais ce n'était pas un burlesque de Charlie Chaplin qui se déroulait en ce moment sous leurs yeux. 2, puis 5, puis 8 explosions de lumière intense fleurirent sur le fond étoilé qui entourait le halo de la planète.
Les transmissions en provenance du Nicky Waymart, du Terrapin, du Cornell et de l'Andrew Paul ont cessé,
annonça l'amiral Singh. Barbre Dangidis leva la main.
Et les 4 autres vaisseaux torches, amiral?
Seules les 4 unités mentionnées disposaient de moyens de communication ultraluminiques. Les patrouilleurs confirment que les échanges radio ou maser à large bande en provenance des autres vaisseaux ont également cessé. Quant aux données visuelles,
il indiqua l'image relayée par un vaisseau automatique. 8 cercles de lumière grossissaient et pâlissaient à la périphérie. Le fond étoilé était strié de traînées de fusion et de points lumineux qui progressaient lentement. Soudain, l'écran devint à son tour opaque.
Tous les capteurs orbitaux sont détruits, de même que les relais Mégatrans,
annonça le général Morpurgo. Il fit un geste et une nouvelle image apparut. Elle montrait les rues d'Evansgate surmontées de l'inévitable couche de nuages bas. Des engins volants évoluaient au-dessus des nuages, comme si les étoiles elles-mêmes s'étaient mises à traverser le ciel.
Tous les rapports confirment que la sphère de singularité a été complètement détruite, déclara Singh. Les premières unités de l'essaim sont en train de se mettre en orbite haute autour d'Heaven's Gate.
Combien de personnes sont encore là-bas ? Demanda Gladstone.
Elle s'était penchée en avant, les coudes sur la table, les mains étroitement nouées.
86 799,
lui répondit le ministre de la Défense, Imoto.
Ce chiffre ne tient pas compte des 12 000 marines distransportées dans le système durant les deux dernières heures,
précisa le général Van Zeit. Imoto inclina la tête en signe d'assentiment. Gladstone les remercia et reporta son attention sur les holos. Les colonnes de données qui flottaient au-dessus des foyers, ainsi que les extraits affichés par les mémofax, les persocs et les panneaux incorporés à la table, contenaient toutes les données relatives à la situation. Nombre de vaisseaux de l'essaim actuellement dans le système, type et matricule des vaisseaux en orbite, orbite de ralentissement estimée et courbe de temps, analyse d'énergie et interception com. Mais Gladstone et les autres avaient tendance à regarder plutôt les images Megatrans, relativement pauvres en informations et peu changeantes, prises par les engins aériens et les caméras de surface, qui montraient les étoiles, le dessus des nuages, les rues et les stations de production d'atmosphère au-dessus de l'esplanade de Plaine des Boues, où Gladstone elle-même se trouvait moins d'une douzaine d'heures plus tôt. Il faisait nuit là-bas. Les fougères géantes ondoyaient silencieusement sous la brise venue de la mer.
« À mon avis, ils demanderont à négocier », était en train de dire le sénateur Richaud. « Ils commenceront par arguer du fait accompli que représente la prise de 9 planètes. Puis ils chercheront à instaurer, en discutant très dur avec nous, un nouvel équilibre du pouvoir. Même si leurs deux vagues d'invasion ont réussi, cela ne représente que 25 mondes sur près de 200 dans l'ensemble du RETS et des protectorats.
C'est vrai,
intervint le chef de la diplomatie Persov.
Mais n'oubliez pas, sénateur, que parmi ces mondes figurent quelques-unes de nos planètes les plus importantes au plan stratégique. Prenez celle-ci, par exemple. TC carré ne figure que 235 heures derrière Heaven's Gate sur le programme d'invasion des extros.
Le sénateur Richaud fixa Persov jusqu'à ce que celui-ci baisse les yeux.
« Je sais parfaitement tout cela, » dit-elle froidement. « J'affirme simplement qu'il est impossible que les extros agissent uniquement par esprit de conquête. Ce serait pure folie de leur part. La force ne permettra d'ailleurs pas à la deuxième vague de pénétrer aussi profondément dans nos lignes. Cette prétendue invasion ne peut être qu'un prélude à la négociation. »«
C'est possible, » fit le sénateur Wankist de Nordholm. Mais pour qu'il y ait des négociations, il faut que...
Attendez,
lui dit Gladstone. Les données affichées indiquaient maintenant qu'il y avait plus de 100 vaisseaux extra en orbite autour d'Heaven's Gate. Les forces terrestres avaient reçu pour instruction de ne pas tirer les premières et aucun signe d'activité n'était visible dans la trentaine d'images méga transmises dans la salle du Conseil de guerre. Tout à coup, cependant, la couverture nuageuse au-dessus de l'agglomération de Plaine des Boues s'illumina comme si l'on venait d'allumer des projecteurs géants. Une douzaine de faisceaux larges de lumière cohérente fouillèrent la ville et la baie, prolongeant l'illusion des projecteurs et donnant à Gladstone l'impression que des colonnes blanches géantes venaient d'être érigées entre le sol et le plafond nuageux. L'illusion prit subitement fin, lorsqu'un tourbillon de flammes et de destruction fit éruption à la base de chacune de ces colonnes de lumière de 100 mètres de diamètre. L'eau de la baie se mit à bouillonner jusqu'à ce que d'immenses geysers de vapeur obscurcissent les caméras les plus proches. Les vues d'altitude montraient des bâtiments centenaires qui prenaient feu dans toute la ville, implosant comme si une tornade se déplaçait rapidement de l'un à l'autre. Les jardins et les parcs de l'esplanade, célèbres dans tout le Retz, s'embrasèrent, projetant des débris comme si une charrue gigantesque les labourait. Les fougères géantes, certaines âgées de plus de 200 ans, se courbaient comme sous le souffle d'un cyclone. Les flammes les gagnèrent aussi et laissèrent un sol carbonisé à leur place.
« Les rayons proviennent d'un vaisseau torche de la classe du Bowers, ou bien de son équivalent extra, »
expliqua l'amiral Singh, rompant le silence. Toute la cité était maintenant en flammes. Tout explosait, tout était éventré par les colonnes de lumière, tout était déchiré.
Il n'y avait pas de canal audio attaché à ces images mégatrans, mais Gladstone avait l'impression d'entendre monter des hurlements. L'une après l'autre, les caméras au sol cessèrent de fonctionner. Les vues prises de la station de production d'atmosphère disparurent dans un grand éclair blanc. Les caméras aéroportées étaient déjà détruites. Les quelques 20 écrans diffusant des images prises du sol s'éteignirent les uns après les autres dans une terrible explosion écarlate qui donna envie à tous ceux qui étaient présents dans la salle de se frotter les yeux.
« Explosion de plasma », expliqua Van Zeit. « Puissance réduite en mégatonnes. »
La dernière image avait montré des installations de défense de la force aéronavale dans le secteur nord du canal Intercité. Soudain, toutes les images restantes disparurent en même temps. Aucune donnée n'arrivait plus. Les lumières de la salle s'allumèrent pour compenser une obscurité si soudaine que tout le monde avait retenu son souffle.
L'émetteur mégatrans primaire a cessé de fonctionner, expliqua Morpurgo. Il se trouvait dans la base de la force de la région de Highgate, protégée par notre champ de confinement le plus puissant, sous 50 mètres de roche et une épaisseur de 10 mètres d'alliage d'acier renforcé.
Charge creuse nucléaire ?
Demanda Barbre d'Anguidis.
Au minimum, estima le général.
Le sénateur Kolchev se leva. De son imposante stature lusienne émanait une impression de force quasi animale.
La question est réglée, dit-il. « Ces fichus extros ne sont pas du tout prêts à négocier. Ils viennent de réduire un monde en cendres. La guerre sera totale et sans merci. L'enjeu est tout simplement la survie de la civilisation. Qu'allons-nous faire maintenant ?»
Tous les regards se tournèrent vers Mayna Gladstone. Le consul retira Theo Lane, à demi inconscient, de l'épave du glisseur, et parcourut en chancelant une cinquantaine de mètres, le bras de son ex-adjoint passé autour de ses épaules, avant de s'écrouler dans l'herbe sous un arbre de la rive du fleuve Ouli. Le glisseur n'avait pas pris feu, mais il s'était écrasé contre un mur qui avait arrêté sa course sur le ventre au bout de quelques dizaines de mètres. Des fragments de métal et de polymère céramique jonchaient la rive et la route déserte. La ville était en flammes. La fumée obscurcissait la rive opposée, et cette partie du vieux quartier de Jacktown donnait l'impression que plusieurs bûchers avaient été allumés en plein air et qu'ils libéraient d'épaisses colonnes de fumée noire qui rejoignaient la couverture de nuages bas. Les lasers de combat et les traînées des missiles continuaient de trouer la brume, explosant quelquefois au contact des leurres métalliques des vaisseaux de débarquement et des bulles des champs de suspension qui continuaient de tomber à travers les nuages comme des fétus de paille emportés par le vent au-dessus d'un champ qui vient d'être moissonné.
« Ça va bien, Théo ?»
Le gouverneur général hocha la tête et fit le geste de rajuster ses lunettes sur son nez, mais il interrompit son mouvement, décontenancé, en s'apercevant qu'elles avaient disparu. Du sang coulait sur son bras et sur son front.
« J'ai reçu un coup à la tête, »
dit-il d'une voix tremblante.
« Servez-vous de votre persoc. » lui suggéra le consul. « Faites venir du secours !»
Théo hocha la tête, plia le bras et fronça les sourcils en regardant son poignet.
« Je l'ai perdu, »
dit-il.
« Il est peut-être tombé à bord du glisseur. »
Il essaya de se mettre sur ses pieds, mais le consul le força à se rasseoir. Ils étaient à l'abri des arbres. Le glisseur, cependant, était visible de partout. Leur atterrissage forcé n'avait pas dû passer inaperçu. Le consul avait eu le temps de voir des blindés dans une rue adjacente avant que le glisseur se pose en catastrophe. Qu'ils appartiennent aux forces territoriales, aux extros ou même aux marines de la force, on pouvait penser qu'ils tireraient à vue sur n'importe qui sans se préoccuper de savoir à quel camp ils avaient affaire.
« Laissez, » dit-il. « Nous trouverons bien un téléphone pour avertir le consulat. »
Il regarda autour de lui, essayant de reconnaître les quais et les entrepôts qui les entouraient. Un peu plus loin, en amont, se dressait une vieille cathédrale abandonnée, dont la salle du chapitre en ruine surplombait la rive du fleuve.
« Je sais où nous sommes, » dit-il. « Pas très loin de chez Cicéron. Venez !»
Il passa le bras de Théo autour de ses épaules et l'aida à se relever.
« C'est une chance, » murmura Théo. je ne refuserai pas une bonne bière bien fraîche. »
Le crépitement de fusil à fléchette et le grésillement caractéristique d'une arme à énergie leur parvinrent de la direction du sud. Le consul, soutenant de son mieux Théo, s'avança en titubant sur la route étroite qui longeait la rive.
« Merde !»
fit-il à voix basse. Chez Cicéron était en train de brûler. La vénérable auberge, aussi ancienne que Jacktown et beaucoup plus vieille que la plupart des quartiers de la capitale, avait déjà perdu 3 ou 4 des grands immeubles qui bordaient le fleuve. Seuls quelques clients courageux s'efforçaient, avec des seaux d'eau, de lutter contre les flammes qui menaçaient les parties encore intactes.
« Je vois Stan !»
fit le consul en indiquant la haute silhouette de Stan Levesky en tête de la ligne de pompiers improvisée. Il aida Théo à s'asseoir contre un orme qui bordait la route.
« Comment va votre tête ?»«
Ça fait mal. »«
Restez là, je vais chercher de l'aide », lui dit le consul en s'éloignant le plus rapidement possible en direction de l'auberge en feu.
Stan Levesky regarda le consul comme s'il avait un spectre devant lui. Le visage du colosse était maculé de suie et de larmes. Ses yeux étaient élargis, comme si la situation le dépassait. Chez Cicéron appartenait à sa famille depuis 6 générations. Il tombait maintenant une pluie fine, et le feu semblait à peu près maîtrisé. Des cris s'élevaient de temps à autre parmi ceux qui luttaient encore contre l'incendie, tandis que des morceaux de charpente à demi calcinés tombaient dans les décombres du sous-sol.
« Il ne me reste plus rien !»
dit Levesky.
« Tu vois, toute l'aile ajoutée par mon grand-père Giry a disparu. Plus que des cendres !»
Le consul saisit le géant par les épaules.
« Stan, nous avons besoin d'aide. Théo est un peu plus loin là-bas. Il a été blessé dans l'accident de notre glisseur. Il faut que nous allions d'urgence au port spatial. Je dois téléphoner. C'est une question de vie ou de mort, Stan. »
Levesky secoua la tête.
« Il n'y a plus de téléphone. De toute manière, les lignes sont complètement embouteillées. Cette putain de guerre a tout détruit. Il ne reste plus rien. Tu ne vois pas qu'il ne reste plus rien ?»
Il fit un geste pathétique en direction de la bâtisse carbonisée. Le consul serra les poings de frustration. Il ne connaissait personne d'autre parmi les hommes qui étaient là. Aucun membre de la force ou des brigades territoriales n'était en vue. Soudain, une voix derrière lui déclara
« Je peux vous aider. J'ai mon glisseur. »
Le consul fit volte-face. Il vit un homme d'une 60aine d'années, au visage luisant de sueur et aux cheveux en désordre.
« Magnifique !» lui dit le consul. « Sachez que j'apprécie votre offre. « Est-ce que je vous connais ?»
ajouta-t-il après un instant d'hésitation.
« Docteur Melio Arundes, »
fit l'homme. Il s'éloignait déjà en direction de l'endroit où attendait Théo. Le consul pressa le pas pour le rejoindre.
« Arundes, » murmura-t-il.
Ce nom lui disait quelque chose, mais…
« Arundes !» s'écria-t-il soudain. « Mon Dieu ! Vous étiez l'ami de Rachel Weintraub quand elle est venue ici il y a plusieurs dizaines d'années. »
« Son conseiller universitaire, plus exactement. Et je sais qui vous êtes. Vous avez participé au pèlerinage avec Sol. »
Ils s'arrêtèrent à l'endroit où Théo attendait, la tête entre les mains.
« Mon glisseur est là-bas, »
leur dit Arundes. Le consul aperçut un petit Viking Zephyr à 2 places garé sous les arbres.
« C'est parfait, » dit-il. « Nous conduirons d'abord Théo à l'hôpital. Ensuite, il faut que je gagne d'urgence le port spatial. »
« L'hôpital est saturé au-delà de tout ce qui est raisonnable. Si vous avez l'intention de reprendre votre vaisseau, vous feriez mieux d'utiliser votre infirmerie de bord pour lui donner des soins. »«
Comment savez-vous que j'ai un vaisseau là-bas ? »
demanda le consul, surpris. Arundes commanda l'ouverture du diaphragme de la porte et aida Théo à s'installer sur l'étroite banquette du fond, derrière les sièges anatomiques de l'avant.
« Je suis au courant de tout ce qui vous concerne, vous et les autres pèlerins. Il y a des mois que j'essaie d'obtenir l'autorisation de me rendre dans la vallée des tombeaux du temps. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je me suis senti frustré lorsque j'ai appris que votre barge était partie en grand secret avec Sol à son bord. »
Il prit une longue inspiration avant de poser une question qui lui brûlait visiblement les lèvres depuis un bon moment.
« Est-ce que Rachel est toujours vivante ? »
Le consul savait que Rachel avait été son amie avant sa maladie.
« Je l'ignore, » répondit-il. « Je fais mon possible pour arriver à temps là-bas pour l'aider. »
Melio Arundez hocha la tête et s'assit dans le fauteuil de pilotage en faisant signe au consul de prendre l'autre place.
« Je vais tâcher de vous conduire au port spatial. Ce ne sera pas facile avec tous les combats qui se déroulent dans le secteur. »
Le consul essaya de se relaxer. Il sentit ses plaies, ses courbatures et son épuisement général remonter à la surface, tandis que le harnais du siège se resserrait autour de lui.
« Il faut d'abord que nous déposions Théo, le gouverneur général, au consulat ou à la maison du gouvernement, comme on doit l'appeler maintenant. »
Arundez secoua la tête et mit les répulseurs en marche.
« Il n'y a plus de consulat, » dit-il. « Un missile perdu l'a détruit, selon les dernières informations dont je dispose. Tout le personnel diplomatique était déjà au port spatial, attendant d'être évacué, avant même que votre ami ne parte à votre recherche. »
Le consul se tourna vers Théo, à présent à demi inconscient.
« Ne perdons pas de temps dans ce cas, » murmura-t-il.
Le glisseur essuya un tir d'arme individuel automatique au moment où il franchissait le fleuve. Mais les fléchettes ricochèrent sur la coque, et le seul rayon d'énergie dirigé contre eux fendit l'air derrière leur engin, créant un nuage de vapeur de 10 mètres de haut. Arundez zigzaguait comme un fou, cabrant l'engin, l'inclinant sur l'aile, piquant du nez, perdant son assiette pour la retrouver in extremis, tournoyant en glissant sur son axe vertical comme une assiette lancée à la surface d'une mer de billes. Le harnais du siège anatomique du consul le retenait étroitement, mais il avait l'estomac qui menaçait de lui sortir par la gorge. À l'arrière, la tête de Théo était ballottée de tous les côtés et il semblait avoir totalement perdu connaissance.
« Le centre de la ville est dans un état lamentable !»
hurla Arundez pour couvrir le rugissement des répulseurs.
« Je vais essayer de suivre l'ancien viaduc jusqu'à l'autoroute du port spatial, puis je couperai à travers la campagne à très basse altitude !»
Ils firent une nouvelle embardée pour éviter un immeuble en flammes. Avec un choc, le consul reconnut au dernier moment son ancienne résidence.
« L'autoroute est toujours ouverte ? »
demanda-t-il. Arundez secoua la tête.
« On ne passera jamais ! Depuis une trentaine de minutes, tout le secteur grouille de cheaters ennemis. Les extros ont l'intention de détruire la ville ? Je ne crois pas ! Ils auraient pu le faire plus facilement avec leurs moyens en orbite. Je pense qu'ils vont plutôt investir la capitale. » Leur vaisseau de descente et leur chuteur se posent à une dizaine de kilomètres du centre. Ce sont nos territoriaux qui résistent!
Arundez se mit à rire. Ses dents très blanches luisaient par contraste avec sa pommade.
Les territoriaux, à l'heure qu'il est, sont à mi-chemin d'Endymion et de Port-Romance. Mais les derniers rapports, il y a 10 minutes, avant que les lignes com ne soient toutes embouteillées, annonçaient qu'il y avait également des combats dans ces villes. Non! Les seules forces qui résistent encore sont les marines affectées à la garde de la cité et du port spatial. Cependant, ils ne sont plus que quelques dizaines. Les extros n'ont donc pas encore détruit ou pris le port spatial. Aux dernières nouvelles, non, pas encore. Mais nous allons bientôt savoir à quoi nous en tenir. Agrippez-vous !
Le voyage de 10 km jusqu'au port spatial, par l'autoroute des personnalités officielles ou par les couloirs de circulation aérienne qui la doublaient, ne durait ordinairement pas plus de quelques minutes. Mais l'itinéraire suivi par Arundez autour des collines, au ras des vallées et entre les arbres, rendait le trajet plus long et plus intéressant. Le consul tourna la tête pour contempler les versants sur sa droite, où brûlaient des camps de réfugiés. Des hommes et des femmes, tapis sous les arbres ou derrière des rochers, baissèrent la tête sur leur passage. Le consul aperçut un détachement de marines de la force retranché au sommet d'une colline, mais leur attention semblait se concentrer exclusivement au nord, d'où venaient des successions de rayons laser. Arundez vit les marines en même temps que lui et fit une violente embardée sur sa gauche, piquant vers le fond d'un ravin à peine quelques secondes avant que les sommets des arbres de la crête ne soit tranché comme par une cisaille invisible. Ils regrimpèrent à la sortie du ravin, par-dessus la crête finale, et les grilles du port spatial apparurent devant eux. Toute la zone était illuminée par les halos bleus et violets des champs de confinement ou d'interdiction. Il n'était plus qu'à 1 kilomètre des installations lorsqu'un laser de visée à faisceau serré troua soudain le ciel et le balaya jusqu'à ce qu'il les trouve, tandis qu'une voix, à la radio, ordonnait
« Glisseur non identifié, posez-vous immédiatement ou vous serez détruit !»
Arundez obtempéra. La ligne d'arbres, 10 mètres plus loin, sembla se mettre à miroiter. Soudain, ils furent entourés de spectres en combinaison de polymères caméléons activés. Arundez avait ouvert les bulles du cockpit. Des fusils d'assaut se braquèrent sur les 2 occupants du glisseur.
« Descendez immédiatement de cet engin !»
fit une voix désincarnée derrière le miroitement du dispositif de camouflage.
« Le gouverneur général est avec nous !»
leur cria le consul.
« Laissez-nous entrer !»«
Épargnez-nous vos conneries !»
lança une voix qui avait l'accent du Retz.
« Et descendez de là !»
Le consul et Arundez se dégagèrent de leur harnais et se préparaient à obéir lorsqu'une voix, à l'arrière de l'engin, aboya.
« Lieutenant Müller, c'est vous ?»
Oui, monsieur.
Est-ce que vous me reconnaissez, lieutenant ?
Le polymère de camouflage se dépolarisa. Un marine revêtu d'une armure de combat au complet apparut à moins d'un mètre du glisseur. Son visage était entièrement dissimulé par une visière, mais la voix était jeune.
Oui, monsieur, le gouverneur. Désolé de ne pas vous avoir reconnu tout de suite sans vos lunettes. Mais vous êtes blessé, monsieur.
Je sais que je suis blessé, lieutenant. C'est pour cela que ces 2 messieurs m'ont escorté jusqu'ici. Ne reconnaissez-vous pas l'ancien consul de l'hégémonie sur Hyperion ?
Désolé, monsieur,
déclara le lieutenant Müller en faisant reculer ses hommes jusqu'à la lisière des arbres.
La base est fermée.
Je sais que la base est fermée, lui dit Théo, la mâchoire crispée. J'ai contresigné l'ordre, mais j'ai aussi autorisé l'évacuation de tout le personnel d'ambassade. « Vous avez bien laissé passer leur glisseur, n'est-ce pas, lieutenant Müller ?»
Une main se leva sous le gantelet, comme pour gratter la tête abritée par le casque et la visière.
« Oui, monsieur. C'est exact, mais c'était il y a 1 heure. Les vaisseaux d'évacuation sont déjà partis et... »«
Müller, pour l'amour de Dieu, branchez votre communicateur tactique et demandez au colonel Gerasimov la permission de nous laisser passer. »«
Le colonel a été tué, monsieur. » Nous avons essuyé une attaque dans le secteur est et...
Le capitaine Lewelin dans ce cas !
Théo s'affaissa en avant, puis se retint au dossier du siège occupé par le consul. Son visage était d'une pâleur qui faisait contraste avec le sang dont il était couvert.
Les canaux de communication tactique sont hors d'usage, monsieur. Les extrons ont brouillé nos fréquences avec...
Lieutenant !
Articula avec effort Théo Lane sur un ton que le consul ne l'avait jamais entendu utiliser.
Vous m'avez identifié visuellement. Vous avez scanné mon implant d'identité. Maintenant, je vous ordonne de nous laisser passer ou de nous faire tirer dessus.
Le marine en armure de combat se tourna vers la lisière des arbres, comme s'il pesait réellement chacun des termes du dilemme.
Les vaisseaux de descente sont tous repartis, monsieur. Aucune nouvelle arrivée n'est prévue.
Théo hocha la tête. Le sang avait séché et formait des plaques sur son front, mais un nouveau filet venait de se former à la limite de son cuir chevelu.
« Le vaisseau en quarantaine est bien dans la fosse numéro 9, n'est-ce pas ?»«
Oui, monsieur le gouverneur, »
répondit Müller en reportant enfin son attention sur Théo.
« Mais c'est un appareil civil qui ne peut pas prendre l'espace avec tous ses extros dans le... »
Théo lui intima le silence d'un geste impérieux, puis fit signe à Arundez de rouler vers l'enceinte du port. Le consul ne quittait pas des yeux les défenses, les champs d'interdiction et, sans doute, les mines à pression qui n'allaient pas manquer de les arrêter dans moins de 10 secondes. Il vit le lieutenant des marines faire un signe à ses hommes et un diaphragme s'ouvrit dans le champ d'énergie bleu et violet qui leur faisait face. Aucun coup de feu ne partit. 30 secondes plus tard, il roulait sur le dur à l'intérieur du port spatial. Quelque chose d'important brûlait au nord des installations. Sur leur gauche, un amas indescriptible de véhicules et de modules de commandement de la force baignait dans une mare de plastique encore en ébullition. Il y avait des gens à l'intérieur, songea le consul. Une fois de plus, il sentit une boule lui monter à la gorge. La fosse numéro 7 avait été détruite. Ses parois circulaires renforcées de 10 cm d'épaisseur de carbone-carbone avait été fendu comme s'il s'agissait de carton. La fosse numéro 8 brûlait avec une intensité blanche qui suggérait l'usage de grenades au plasma. La fosse numéro 9 était intacte. Le nez du vaisseau du consul émergeait, à peine visible à travers le miroitement d'un champ de confinement de classe 3.
« La quarantaine a bien été levée !» demanda le consul.
Théo laissa retomber sa tête sur la banquette capitonnée.
« Oui, »
fit-il d'une voix rauque.
« Gladstone a autorisé la suppression du champ restrictif. Ce que vous voyez là n'est qu'un champ protecteur, que vous pouvez faire disparaître sur simple demande. »
Arundez arrêta le glisseur sur le tarmac, juste au moment où plusieurs voyants s'allumaient, accompagnés de messages vocaux synthétisés, décrivant des pannes variées. Ils aidèrent Théo à descendre et s'arrêtèrent devant la queue du petit glisseur, à l'endroit où une ligne de fléchettes avait transpercé le capot du moteur et le logement des répulseurs. Une partie du métal surchauffé avait fondu. Melio Arundez donna une ou deux tapes affectueuses sur la coque, puis il aida le consul à soutenir Théo pour entrer dans la fosse et grimper sur la plateforme ombilicale.
« Mon Dieu !»
fit le docteur Melio Arundez.
« C'est magnifique. Je n'avais jamais eu l'occasion de monter à bord d'un vaisseau interstellaire privé. »
« Il n'en existe que quelques douzaines dans tout le Retz, »
fit le consul en plaçant un masque à osmose sur la bouche et le nez de Théo. Ils déposèrent doucement le gouverneur général dans le caisson d'urgence de l'infirmerie, où il serait alimenté directement par une solution nutritive.
« Malgré sa petite taille, » continua le consul, ce vaisseau a coûté plusieurs centaines de millions de marks. Il n'est pas rentable pour les grandes compagnies ou pour les gouvernements planétaires des confins d'utiliser leurs vaisseaux militaires dans les rares occasions où ils ont besoin de voyager d'un système stellaire à l'autre.
Il referma hermétiquement la cuve et échangea quelques mots rapides avec le programme de diagnostic et de soins.
« Il est hors de danger »,
dit-il au bout d'un moment en se tournant vers Arundez. Ils retournèrent ensemble vers la fosse au lot. Melio s'arrêta devant le vieux Steinway, passant la main sur le bois laqué du magnifique piano à queue. Puis il se tourna vers la section transparente de la coque, au-dessus du balcon actuellement rentré.
« J'aperçois des flammes du côté de l'entrée, » dit-il. « Nous ferions mieux de nous dépêcher de filer d'ici. »«
C'est ce que nous allons faire, »
dit le consul en lui faisant signe de s'asseoir sur le canapé circulaire qui entourait la fosse au lot. L'archéologue se laissa tomber sur les coussins moelleux et regarda autour de lui.
« Il n'y a pas de... commande ?»
Le consul sourit.
« Que voudriez-vous ? Une passerelle de commandement ? Un tableau de bord ? Une roue de gouvernail que je m'amuserais à tourner, peut-être ? Rien de tout ça.
Non.
Pilote ?
Oui. »
fit une harmonieuse voix féminine venue de nulle part.
« Sommes-nous parés pour le décollage ?»«
Oui. »«
Le champ de confinement est levé ?»«
C'était le nôtre. Je l'ai annulé. »«
Parfait. Filons d'ici en vitesse. Je n'ai pas besoin de vous apprendre que nous sommes au milieu d'une guerre et qu'il y a des fusillades un peu partout, n'est-ce pas ?»«
Non. Je me suis tenu informé de la situation. Les derniers vaisseaux de la force sont en train de quitter le système. » Les marines qui sont ici sont condamnées à...
Gardez vos analyses tactiques pour plus tard, pilote. Mettez le cap sur la vallée des tombeaux du temps et sortez-nous d'ici en vitesse.
Bien, monsieur. Je voulais seulement souligner que les forces qui défendent ce port spatial n'ont aucune chance de tenir plus d'une heure ou deux.
J'en prends note, dit le consul. Décollez maintenant.
J'ai ordre de vous montrer d'abord ce message Mégatrans. La salve est arrivée aujourd'hui à 16h22min 38s 14/10 standard.
Hein ? Une seconde !
Hurla le consul, gelant la transmission au lot encore à moitié flou, où il reconnaissait cependant une partie du visage de Mayna Gladstone.
De qui recevez-vous vos ordres, pilote ?
De la présidente Gladstone, monsieur. Il y a 5 jours qu'elle exerce son droit de commandement prioritaire sur toutes les fonctions du vaisseau. La salve, Mégatrans, est la dernière condition avant que vous...
C'est donc pour cela que vous n'avez pas répondu à mes commandements à distance, murmura le consul.
Oui,
fit la voix sur le ton d'une conversation ordinaire.
Lorsque vous m'avez interrompu, je m'apprêtais à vous informer que la dernière condition avant de vous restituer le commandement
était que vous regardiez le message Mégatrans.
Ensuite, vous m'obéirez ?
Oui.
Vous nous conduirez à l'endroit de mon choix ?
Oui.
Plus de commandement prioritaire ?
Pas à ma connaissance.
Passez-moi cette salve et qu'on en finisse.
Les traits lincolniens de Mayna Gladstone flottèrent au centre de la fosse de projection, secoués des spasmes et des manques propres aux méga-transmissions.
Je suis contente que vous ayez survécu à la visite des tombeaux du temps, dit-elle au consul. Vous devez maintenant savoir que je vous ai demandé d'aller négocier avec les extros avant de regagner la vallée.
Le consul croisa les bras en regardant furieusement l'image de la présidente. Au dehors, le soleil était en train de disparaître derrière les collines. Dans quelques minutes à peine, Rachel Weintraub atteindrait le point zéro de sa naissance et cesserait tout simplement d'exister.
Je comprends votre hâte de retourner là-bas pour aider vos amis, reprit Gladstone. Mais vous ne pouvez rien faire pour secourir l'enfant à ce stade. Tous les experts du RETS affirment que ni le sommeil cryotechnique ni l'état de fugue ne sont en mesure d'empêcher l'évolution de la maladie de Merlin. Sol est au courant.
De l'autre côté de la fosse Holo, le docteur Arundez hocha la tête.
C'est exact, dit-il. Il y a eu des années d'expérimentation. L'état de fugue la tuerait. Alors que vous pouvez aider des milliards de citoyens du RETS que vous croyez avoir trahis,
était en train de dire Gladstone. Le consul se pencha en avant, les coudes sur les genoux, le menton dans les mains. Il entendait son cœur battre très fort à ses oreilles.
« Je savais que vous ouvririez les tombeaux du temps, »
continua Gladstone, dont les yeux tristes semblaient fixer directement le consul.
« Les prédictions du centre établissaient que votre loyauté envers Alliance Maui et la mémoire du soulèvement de vos grands-parents serait plus forte que tout autre facteur. Il était temps que les tombeaux soient ouverts. Vous étiez le seul à pouvoir activer le dispositif extro avant que les extros eux-mêmes n'aient pris leur décision.
« J'en ai entendu assez !»
s'exclama le consul en se levant pour tourner le dos à la projection.
« Annulez ce message !»
ordonna-t-il au vaisseau, bien qu'il sût que celui-ci n'obéirait pas. Melio Arundez traversa la projection pour saisir le bras du consul.
« Laissez-la finir. Faites-moi plaisir. »
Le consul secoua la tête, mais resta dans la fosse, les bras croisés.
« Le pire est maintenant arrivé, » disait Gladstone. « Les extros sont en train d'envahir le RETS. Heaven's Gate est presque entièrement détruite. Le bosquet de Dieu va être balayé par l'invasion dans moins d'une heure. Il est impératif que vous rencontriez les extros dans le système d'Hyperion pour négocier. Utilisez votre savoir-faire diplomatique pour ouvrir le dialogue avec eux. Ils ne répondent pas à nos messages radio ou Mégatrans, et nous les avons avertis de votre arrivée. Je pense qu'ils vous feront encore confiance. »
Le consul laissa échapper un cri étouffé et s'avança jusqu'au piano sur le couvercle duquel il laissa retomber lourdement son poing.
Le temps dont nous disposons maintenant s'évalue en minutes et non en heures, continua Gladstone. Je vous demande de contacter d'abord les extros dans le système d'Hyperion. Ensuite, vous retournerez, s'il le faut, dans la vallée des tombeaux du temps. Vous connaissez mieux que moi les enjeux de cette guerre. Des millions d'innocents mourront si nous ne réussissons pas à engager le dialogue avec les extros. Vous êtes libre de votre décision. Mais je vous demande d'évaluer les conséquences d'un échec de cette dernière tentative de découvrir la vérité et de préserver la paix. Je vous recontacterai par Mégatrans dès que vous aurez atteint les 5 extros.
L'image de Gladstone devint floue, puis disparut.
Réponse ?
Demanda le vaisseau.
Non,
fit le consul en marchant de long en large entre le Stanway et la fosse de projection.
Aucun engin aérien, aucun vaisseau spatial ne s'est posé depuis près de 2 siècles dans la région des tombeaux du temps avec ses occupants vivants,
déclara Melio Arundez.
Elle doit savoir à quel point vos chances sont minces d'arriver là-bas,
de survivre au Gritch et de contacter les extros par-dessus le marché.
La situation a changé,
répliqua le consul sans se retourner.
Les marées du temps sont devenues complètement folles. Le Gritch va où il veut. Il est possible que le phénomène qui faisait disparaître les équipages ne s'exerce plus.
Il est possible aussi que votre vaisseau atterrisse sans nous, comme tant d'autres dans le passé.
« Bon Dieu, Arundez !»
hurla le consul en faisant volte-face.
« C'est vous qui avez insisté pour me suivre. Vous connaissiez les risques !»
L'archéologue hocha calmement la tête.
« Je ne parle pas des risques que je cours personnellement, monsieur. Je suis prêt à les prendre tous si cela me donne une chance d'aider Rachel. Ou seulement de la revoir une fois. Mais votre survie est peut-être la clé de celle de l'humanité. »
Le consul secoua le poing et se remit à faire les 100 pas comme un fauve encagé.
« Ce n'est pas juste! Elle se sert de moi comme d'un vulgaire pion sur un échiquier! Pour la deuxième fois, avec cynisme et préméditation, j'ai assassiné 4 extros, Arundez. Je les ai tués uniquement pour pouvoir activer leur foutu dispositif d'ouverture des tombeaux. Et vous croyez qu'ils vont maintenant m'accueillir à bras ouverts ?»
Les yeux noirs de l'archéologue soutinrent le regard du consul sans ciller.
Gladstone est persuadé qu'ils accepteront de parlementer avec vous.
Qui peut savoir ce qu'il y a dans la tête des extros ? Ou de Gladstone aussi bien d'ailleurs. Le sort de l'hégémonie et ses relations avec les extros ne sont pas ma préoccupation principale. Maudites soient leurs 2 maisons en ce qui me concerne.
Même si l'humanité tout entière doit souffrir ?
L'humanité, je ne connais pas. Tout ce que je connais, c'est Sol Weintraub, Rachel et une femme qui a besoin d'aide et qui s'appelle Brown Lamia. Et aussi le père Paul Duré et Fatman Kassad. Et
la voix douce du vaisseau les enveloppa.
Le secteur nord du port spatial a été pénétré. Je m'apprête à décoller. Veuillez rejoindre vos sièges.
Le consul se retourna en chancelant jusqu'à la fosse holo, tandis que le champ de confinement interne pesait sur lui et que la pression différentielle verticale augmentait sensiblement, maintenant chaque objet à sa place et protégeant les passagers plus efficacement que n'importe quel harnais de sécurité. Dès qu'il serait en chute libre, l'intensité du champ diminuerait, mais elle continuerait de servir à simuler une gravité planétaire. Au-dessus du foyer holo, l'air devint flou, et l'image de la fosse de décollage et du port spatial s'éloigna rapidement pour laisser place à une ligne de collines et à un horizon qui ne cessait de s'incliner dans tous les sens, tandis que le vaisseau se livrait, sous 80G, à des manœuvres d'évitement hardies. Quelques faisceaux d'énergie montèrent vers eux, mais les colonnes de données montraient que les champs de protection extérieure n'avaient aucun mal à annuler leurs effets négligeables. Puis l'horizon lui-même disparut, et le ciel lapis fit place au noir de l'espace.
« Destination ?» demanda le vaisseau.
Le consul ferma les yeux. Derrière lui, une tonalité annonça que Théo pouvait être retiré de son caisson médical.
Combien de temps faudrait-il pour rejoindre les forces d'invasion extro ?
Demanda le consul.
30 minutes pour atteindre l'essaim, répondit le vaisseau.
Et dans combien de temps serons-nous à portée des armes de leurs engins d'assaut ?
Nous sommes déjà repérés.
L'expression de Melio Arundez était toujours calme, mais ses phalanges, crispées sur le bord du canapé, étaient blanches.
Très bien, dit le consul. Dirigez-vous vers l'essaim. Évitez les bâtiments de l'hégémonie. Annoncez sur toutes les fréquences que nous sommes un vaisseau diplomatique non armé qui demande à parlementer.
Un tel message a déjà été programmé et autorisé par la présidente Gladstone, monsieur. Il est actuellement en cours de diffusion sur toutes les fréquences com et sur Megatrans.
Continuez, dit le consul.
Il fit un geste en direction du Persoc d'Arundez.
Vous voyez l'heure qu'il est ?
Oui. La naissance de Rachel est dans 6 minutes exactement.
Le consul se laissa aller en arrière, les yeux fermés.
Vous avez fait un long chemin pour rien, docteur Arundez.
L'archéologue se leva, hésita une seconde avant de trouver son équilibre sous la gravité simulée, puis marcha précautionneusement jusqu'au piano. Il demeura là un bon moment à observer, par la baie du balcon replié, le ciel noir et le limbe encore lumineux de la planète qui s'éloignait sous eux.
« Peut-être pas, » dit-il. « Sait-on jamais ?